surprise. Bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau, alors on meurt de faim, j'en viens d'accord.
Allez-moi la capuche. Allez-moi la capuche, vite, baisse les chats.
Depuis 81, le social a tué l'économie.
Parmi les revendications, augmentation des salaires, abolition des ordonnances sur la sécurité sociale et création d'un comité de co-gestion.
Offensive sonore.
Moi je sais pas ce que c'est qu'un lutte des classes.
Oh, ça me fait bien marrer.
Moi je sais pas ce que c'est qu'un lutte des classes, mais je suis certainement mieux que toi, va. Ta gueule. Ouais.
Offensive sonore sur Radio Liberton.
C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord?
Oui,
allez.
Notre patience est à bout. Nous sommes sans cesse trahis par ceux que nous regardons comme nos meilleurs amis. On nous vole, on nous pille, comme par le passé. Nous n'avons plus ni argent ni subsistance. Qu'avons-nous gagné à la Révolution ? Ce sont des propos extraits du journal du Père Duchesne, Grande colère du Père Duchesne, qui est rédigé par René Herbert à la Révolution française. Et c'est des propos qui ont été reproduits dans l'ouvrage de Claude Guillon, Notre patience est à bout, 1792-1793, les écrits des enragés, que nous recevons ce soir. Donc il nous a paru intéressant de se pencher sur cet ouvrage qui reproduit des textes, hein, qui reproduit des textes des enragés de l'époque, des textes bruts. Et en fait, on se rend compte que les questions qui sont posées pendant la Révolution française, à ce moment-là, sont d'une actualité criante, des textes... Parfois, c'est vraiment incroyable de voir aussi comment les choses ont si peu évolué. On pense notamment aux textes féministes qui sont reproduits dans l'ouvrage. Et puis la Révolution française nous intéresse aussi parce que c'est les cadres politiques, les cadres qui sont fixés un peu au tournant de 1789 et des cadres politiques qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si on peut citer l'historien Eric Hobsbawm qui montre comment chacun se voit dans la Révolution française. À l'exception des conservateurs, tout le monde pourrait se tourner vers un moment de la Révolution française ou bien interpréter son histoire d'une façon qui se prête à sa cause. Comme chacun sait, la politique française se joue toujours comme une pièce en costume et en bonnet phrygien. Les libéraux modérés se reconnaissent à leurs héros, Mirabeau ou les Girondins. La majorité des républicains, suivant cela Michelet et Auguste Comte, avaient choisi Danton. Les républicains de gauche, partisans de la politique insurrectionnelle, penchaient eux pour Marat, et de plus en plus pour Robespierre, à l'exception des athéistes passionnés qui ne pouvaient pas avaler sa défense de l'être suprême. Bonsoir, donc vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Offensive Sonore. Et ce soir, nous recevons Claude Guillon, bonsoir.
Salut.
Et donc, Claude Guillon, dans cet ouvrage, tu as écrit en tant que historien, essayiste, militant, révolutionnaire. Quel statut un petit peu, parce qu'on reçoit souvent des universitaires qui écrivent des ouvrages.
Voilà, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un historien au sens où je ne suis pas universitaire, je ne suis pas prof. Je me suis intéressé à la Révolution française et singulièrement aux enragés, c'est-à-dire un courant de la sans-culotterie parisienne, notamment. On y reviendra dans le cours de l'émission, depuis quelques années, en tant que militant. Je m'inscris en ça dans une tradition de militants historiens ou d'historiens militants, c'est-à-dire qui n'avaient pas de formation universitaire, mais qui ont travaillé sur la Révolution française. Alors, je ne prétends pas du tout mettre le signe égal entre ces gens-là et moi, mais c'est une tradition politique d'un mouvement anarchiste. Je pense notamment à Kropotkine, qui a publié au début du XXe siècle un bouquin qui s'appelle La Grande Révolution. Mais Kropotkine l'a écrit à Londres parce qu'il était un peu obligé d'être à Londres à l'époque, et donc il n'a pas eu accès aux archives françaises. Et ensuite, le grand exemple, c'est Daniel Guérin, militant révolutionnaire passé du trotskisme à l'anarchisme, qui a publié un énorme bouquin en 46, republié en 68, s'appelle La lutte de classe sous la Première République, et une version plus allégée en poche qui a été republiée mais qui est déjà réépuisée au numéro rouge, s'appelle Bourgeoise et Bras Nus.
Donc vous avez fait la préface.
Dont j'ai fait la préface, ce qui était une tâche agréable, même si c'est une préface critique, parce que Guérin était aussi quelqu'un que j'aimais bien, que j'ai fréquenté pendant les 10 dernières années de sa vie. Alors, pour continuer à répondre à ta question, mon intérêt pour la Révolution française et pour les enragés est donc un intérêt politique, mais j'essaye d'avoir une démarche scientifique et critique, c'est-à-dire j'ai pas un abord idéologique de la question. Je ne cherche pas à faire des enragés des héros positifs, tu vois, qui seraient des ancêtres du mouvement anarchiste. Les pauvres ne peuvent plus protester maintenant, et d'autre part on verra dans notre discussion que ce sont des gens qui sont comme tout le monde plein de contradictions, qui se heurtent à des questions qu'ils n'ont pas les moyens de résoudre. Mais ce qui est intéressant, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que un certain nombre de questions se posent de manière, peut-être pas toujours pour la première fois, mais en tout cas dans des termes qui ressemblent beaucoup à ceux que nous connaissons, c'est-à-dire de manière extrêmement moderne, chez des gens qui se trouvent pris dans un processus révolutionnaire dont ils sont certes les acteurs, mais dont ils sont d'une certaine manière les premiers surpris, parce que ça surprend tout le monde, ce qui se passe entre 89 et 93. On peut faire durer la révolution un peu plus loin, mais entre la réunion des états généraux en 89 et même la proclamation de la République, c'est-à-dire en septembre 92, il y a un bouleversement complet dans la société française qui est absolument imprévisible, y compris par exemple le 14 juillet 1789, que nous on prend comme symbole, à juste titre d'une certaine façon, du processus révolutionnaire. Mais en 89, il n'y a quasiment pas de républicains dans Paris, et ceux qui pourraient se dire à la rigueur tels ont très très peu de références historiques pour parler de la souveraineté du peuple ou de la République. Ils ont un peu de Rousseau, des références dans l'Antiquité, grecque et romaine, quelques allusions aux libertés des villes au Moyen-Âge, c'est-à-dire un tout petit bagage. Et c'est assez fascinant de voir ce qu'ils arrivent à produire et à faire, déjà, et en plus à produire comme texte et comme réflexion théorique à partir d'une pratique avec très peu de bagages idéologiques et historiques, nous qui en avons tellement aujourd'hui.
Oui, parce que même souvent la Révolution française, si on lit des cours d'histoire, si on lit des résumés, si on lit des présentations, on a l'impression que c'est 1789, ils ont voulu instaurer la démocratie, le droit de vote, etc. Il y a vraiment une simplification parfois, alors que c'est un processus au contraire qui va s'établir.
Voilà, et ça, c'est, si tu veux, ça peut être l'occasion de souligner une première, ce qui me paraît être une première leçon, un premier enseignement de cette révolution fondatrice des temps modernes, même si c'est un peu un cliché. On s'aperçoit quand même qu'on est encore beaucoup dans les problèmes qui se posaient eux, qu'effectivement on n'a pas non seulement su résoudre, mais pas forcément beaucoup progressé dans la voie des solutions. Un des enseignements, c'est que un processus révolutionnaire est quelque chose qui est pour une part imprévisible, extrêmement difficile aussi à planifier, à maîtriser, y compris pour ceux qui en ont l'ambition, ce qui n'est pas a priori la façon de voir des libertaires. Mais surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que un mouvement révolutionnaire réel dans une société donnée ne peut pas se mesurer par un sondage d'opinion. Il n'y en avait pas en 89, mais à supposer qu'on ait pu le faire, hein. Ça peut pas se mesurer par un sondage d'opinion à un moment donné. Supposons que tu puisses faire le sondage d'opinion le 13 ou même le 14 ou même le 15 juillet 1789, personne n'est en faveur de la République. La plupart des gens savent même pas ce que c'est.
Oui, c'est la notion. Et...
on sait pas ce que c'est. Et néanmoins, ça va se produire parce que se mettent en branle certes sous l'effet de l'action d'individus de chair et de sang, des rapports de force qui ont leur propre logique et qui amènent des questions sur la démocratie directe, sur la souveraineté, qu'est-ce que c'est que le peuple, etc. Toutes les questions qu'on va essayer d'aborder.
Du coup, ton ouvrage s'intéresse aux enragés, hein, plus spécifiquement, qui est un courant qui est peu connu, moins mis en avant quand même dans la Révolution française, quoi, dans l'histoire de la Révolution française.
Oui, ça, c'est intéressant d'en dire un mot parce que ça montre aussi comment l'histoire est pas uniquement une histoire factuelle, c'est-à-dire une collection de faits qui suffirait de découvrir, y compris, je sais pas, dans des archives où les archéologues grattent avec des brosses à dents sur des petits morceaux d'os et ils découvrent des trucs. C'est un aspect, bien sûr. Il y a une réalité des documents, des événements, des faits. Mais ensuite, il y a leur abord politique, théorique et idéologique. Et l'histoire de la Révolution française, et singulièrement l'histoire des enragés, parce que c'est une tendance radicale de la Révolution française, pâtit énormément de ça. Et on s'aperçoit que... et en pâtit essentiellement en France, ce qui est tout de même un paradoxe. Mais pas tant que ça quand on voit que beaucoup d'historiens sont assez logiquement de gauche et même marxistes ou philo-soviétiques. Alors on a cette espèce de paradoxe entre guillemets que le premier historien des enragés, c'est-à-dire à faire des monographies sur chacun des enragés, à faire un livre de synthèse sur le mouvement des enragés, c'est un monsieur qui s'appelle Zakher, qui vit en Union soviétique, qui est pas du tout isolé des historiens français. Il est très copain avec un garçon qui s'appelle Albert Mathiez, qui est un auteur dont on réédite encore les ouvrages, qui a fait un travail énorme, qui est considéré comme un classique de l'histoire de la Révolution française. Il connaît très bien Mathiez, il travaille avec lui, il vient à Paris aux Archives nationales. On ne traduit jamais ses livres en français. Aucun de ses ouvrages n'est traduit en français. Ensuite, on a le même phénomène avec un garçon qui s'appelle Walter Markov, qui lui est en Allemagne de l'Est, qui lui entretient d'excellents rapports avec Albert Soboul, historien français, également au travail considérable et considéré aujourd'hui comme un classique. Donc, il n'est pas du tout coupé de la scène historienne française. Il fait un énorme travail sur Jacques Roux, un des enragés
dont on parle,
qui est un dit le curé rouge, qui est donc un prêtre et une des figures du courant des enragés. Et ce Walter Markov fait un énorme travail. Il a publié peut-être 5 bouquins, j'ai plus chiffré quelques en tête, 4 ou 5 bouquins, et puis pas des petits bouquins sur Jacques Roux. Il y en a aucun traduit en français, ce qui est quand même assez fascinant. Le seul, il n'a pas eu à être traduit en français parce qu'il l'a publié lui-même en français à Berlin-Est.
D'accord.
Donc, c'est publié par un éditeur allemand, mais directement en français. Et c'est un recueil de textes de Jacques Roux. Donc, celui-là, il est disponible en français. Donc, il y a eu, très manifestement, y compris par des historiens marxiste, voire philo-soviétique, qui était parfaitement au fait, qui connaissait le courant des enragés, ils ont fait une place dans leur propre bouquin, ce bouquin en parle beaucoup. Le moins qu'on puisse dire, en étant gentil et strictement objectif, c'est qu'ils n'ont fait aucun effort pour que les travaux étrangers soient traduits en français. Et donc, d'une certaine façon, en comptant le fait qu'il y a beaucoup d'historiens anglo-saxons qui ont aussi travaillé sur les enragés, notamment un monsieur qui s'appelle Rose et un autre qui s'appelle Maurice Lavigne, qui est mort il y a peu de temps, eh ben, il est paru beaucoup plus de choses sur les enragés dans des langues étrangères qu'en français.
Ce qui est un cas général sur la Révolution française aussi. Il y a une production énorme à l'étranger, on se rend pas forcément compte. Mais...
C'est tout à fait vrai. Mais enfin, il y a des questions de rapport...
De proportion, oui, aussi, qui sont...
Il y a plus d'historiens américains qui travaillent sur la Révolution française que d'historiens français. Mais c'est aussi parce que l'Amérique est un plus grand pays. Enfin, du coup, il y a un retard qui est clairement de nature idéologique et politique. D'où, à mon avis, une raison de plus pour s'intéresser aux enragés ici.
Et donc du coup, pour rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, avant d'aborder, l'ouvrage est divisé en différentes thématiques, hein. Vous avez essayé de traiter de trois thématiques, la question du mandat impératif, la question de la vie chère et la question des femmes ou du féminisme, si on peut le nommer ainsi. Peut-être présenter les enragés. Les enragés, c'est un groupe constitué, c'est un groupe organisé, un groupe qui se nomme comme tel, ou alors ça a été nommé a posteriori enragé.
Alors l'appellation est d'époque, non pas nécessairement pour désigner les personnages précis dont on va parler, mais le courant, on disait aussi les exagérés, mais le terme enragé se trouve en 1792 dans un journal, on va dire, de la droite républicaine. Parce que c'est un peu compliqué, parce qu'à l'époque, la droite, il y a évidemment des monarchistes et des gens qui sont pour une monarchie constitutionnelle, donc des modérés qui penchent plutôt vers la monarchie, mais la droite à l'Assemblée, notamment à la Convention, c'est quand même des républicains. Hein, on est dans des tendances internes. Il y a à la fois une lutte contre la contre-révolution, c'est-à-dire les armées des pays des monarchies européennes, et une contre-révolution intérieure, notamment dans l'ouest de la France. Mais la bagarre, elle se situe beaucoup à l'intérieur du camp républicain. Les enragés y jouent un rôle qui a été, là encore, très discuté par les historiens, en partie parce que ça ne constitue pas, tu dis que c'est un parti, voilà, non, c'est pas un parti.
Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà.
C'est pas du tout un groupe au sens du parti bolchevique, ou au sens de la conspiration babouviste de Babeuf, qui va venir un petit peu plus tard. C'est plutôt un courant de pensée et d'action de gens dont les idées convergent vers des buts communs, et qui aussi, je vais en reparler, de ces buts communs, et qui aussi se retrouvent, un peu plus souvent qu'on ne l'a dit, dans certaines occasions historiques, et qui agissent ensemble. C'est-à-dire, c'est pas non plus des gens totalement isolés. Les principales figures, on y reviendra peut-être, mais comme ça pour que les noms soient un peu présents dans la tête des auditeurs et des auditrices, les principales figures, c'est Théophile Leclerc, qui est un garçon dont j'ai publié la biographie en 93 ou 94, je crois. 1900 cette fois. Hein. Jacques Roux, donc le prêtre dont je parlais il y a quelques minutes, Jean-François Varlet, qui a des positions, alors lui qu'on pourrait dire d'une certaine façon clairement libertaire contre le gouvernement révolutionnaire, et puis du côté des militantes femmes, essentiellement deux personnes, Pauline Léon, dont j'ai aussi publié la biographie, j'y suis même revenu dans une publication plus récente, qui présente l'intérêt d'avoir épousé Théophile Leclerc. Donc là, on sait qu'il y avait des contacts de toute nature entre eux. Et puis pour finir, Claire Lacombe, qui était une comédienne et une amie de Pauline Léon. Ce qui ne s'est probablement jamais produit, encore qu'on n'en ait pas non plus la preuve matérielle absolue, c'est que les gens que je viens d'énumérer, c'est-à-dire Lacombe, Leclerc, Léon, Roux et Varlet, se soient trouvés autour d'une table un soir, comme nous on est autour de cette table. Voilà. Il est probable que ça ne s'est pas produit. Par contre, on arrive en faisant un travail de recherche à repérer que, ces trois-là faisaient partie de la même société populaire. Donc, ils avaient toutes les chances de se croiser dans ces réunions. Que ces deux-là, Lacombe et Léon, ont participé pour Pauline Léon, elle a même cofondé la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires. Donc elle participait, ces deux-là, au même groupe.
Un travail de policier, en fait.
Oui, exactement. L'historien utilise beaucoup le travail des policiers. Ça, c'est un des paradoxes pour le militant. C'est que on utilise avec
Non, non, mais il faut bien expliquer que c'est dans l'objet de comprendre aussi ce que sont ces groupes qui ne s'organisent pas forcément comme on s'organise aujourd'hui.
Non, non, bien sûr.
Heureusement, les déplacements sont
donc,
pas
si
les mêmes.
Tu veux, ce sont des gens qui se connaissent tous, ça c'est clair. Et ils savent très bien, chacun d'eux, chacune d'elles sait très bien qui sont les autres. Ils pratiquent un front commun dans un certain nombre d'occasions historiques. Mais ils ne constituent pas un groupe ni même un club de discussion. Ils participent à certains au club des Jacobins, d'autres dans d'autres sociétés populaires. Mais c'est pas un parti, c'est pas un club de réflexion. Ce qui a beaucoup arrêté les historiens marxistes notamment, parce que c'est pas le schéma bolchevique. Et que ça n'existe pas, c'est pas très intéressant. Donc ça a été probablement sous-estimé pour cette raison. Alors leur point commun, si tu veux, ce qui constitue la nature de leur convergence. Hein, bon, ils sont terroristes dans un premier temps, c'est-à-dire qu'ils soutiennent la politique de terreur. Ils trouvent qu'on juge pas assez, qu'on guillotine pas assez de gens.
Les contre-révolutionnaires.
Oui.
Quoi, ceux qu'on juge contre-révolutionnaires.
Qu'on considère comme quoi. Alors c'est une position qui est pas du tout isolée, mais enfin, ils sont d'abord dans un courant qui est un soutien massif des sans-culottes à des mesures énergiques, c'est le moins qu'on puisse dire, pour barrer la contre-révolution. Mais contre-révolution qui existe, les armées sont aux frontières, elles rentrent même en 92, il y a un envahissement du territoire par les armées de Prusse. Bon, il y a des dangers bien réels, hein. On n'est pas dans une situation qui est stabilisée, où ça serait une espèce de déviation autoritaire. Il y a un vrai problème. Dans un premier temps, ils sont terroristes. Dans un deuxième temps, ils critiqueront la terreur quand ils vont comprendre que c'est un système qui, en fait, garde des critères de classe. C'est-à-dire qu'on guillotine beaucoup plus de pauvres bourgs que de vrais aristocrates contre-révolutionnaires, et que c'est un système qui, par sa centralisation, son appareil policier, va les écraser eux, et va finir par écraser, c'est ce qui se produira d'ailleurs, toute la tendance radicale de la révolution. Ils sont disons qu'ils sont à l'extrême de la conception de la révolution bourgeoise, c'est-à-dire une révolution qu'on pourrait caricaturer un petit peu en disant que elle veut pas toucher à la propriété, elle veut au contraire la généraliser. C'est une vision d'un monde de petits propriétaires où en gros ma liberté s'arrête où commence celle du voisin, c'est-à-dire à la clôture du jardin. Alors, il y a des poussés par les circonstances, il y a des petites pointes un peu plus radicales chez Jean Croux notamment, mais en gros, ça ne va pas, et ça a été un autre reproche qui leur a été adressé par une certaine historiographie marxiste, ça ne va pas jusqu'à des conceptions qu'on peut qualifier de communistes, ce qu'on a davantage trouvé chez Babeuf ensuite, mais Babeuf a pas beaucoup participé à la révolution, et en tout cas il ne s'est pas allié aux enragés tant qu'ils étaient en activité. Un des points communs surtout qui me paraît important, c'est que ils ont tous la volonté de continuer ou de renouveler la révolution. Ils disent tous, Leclerc, Jacques Roux le disent avec chacun avec ses mots. On s'est arrêté là. Il faut continuer. Il faut aller plus loin. Et il ne faut pas, ce qui est fondamental, abandonner la révolution aux hommes d'État. Ça, c'est une formule qui revient très souvent chez Jacques Roux. Il dit, il faut pas laisser la révolution aux hommes d'État. Il faut sans cesse revivifier la souveraineté populaire. Et il faut pas s'arrêter en cours de route, parce que sinon on n'aura fait que creuser notre tombe, ce qui pour Jacques Roux était tout à fait pertinent comme remarque, puisqu'il a été arrêté et qui s'est lui-même suicidé, persuadé qu'il serait conduit à la guillotine par le tribunal révolutionnaire.
Alors, Claude Guillon, avant de faire une pause, il y a un autre point commun, alors peut-être un peu plus trivial, mais à la fin de votre livre, qui est extrêmement bien fait, il y a toute une série de petites repères biographiques, sur les enragés, assez rapide, mais qui permettent d'approfondir. Notre point commun, peut-être un peu plus trivial, on s'aperçoit qu'ils sont jeunes, tous. Quoi, oui. Tous. Roux, si je regarde, 17, à part Jacques Roux peut-être.
Oui, oui. Roux à 40 ans, c'est le plus âgé.
Sinon, Pierre Lacombe, 1765, ça fait 24 ans au début de la Révolution.
Ils ont une 25 ans.
Théophile Leclerc, 18 ans, je compte en 1789. Oui. Et d'origine bourgeoise aussi.
Voilà.
La plupart, hein, parce que absolument. Vous mettez un peu dans le milieu.
Non, bien sûr. Ils ont pour point commun tous, alors, pas nécessairement, enfin, d'origine, ça dépend ce qu'on appelle origine bourgeoise. En tout cas, ils ont tous une certaine éducation, ils savent tous écrire, ils ont tous une maîtrise de la langue, ce qui évidemment n'est pas le cas général, donc ils sont tous capables de parler en public, enfin ils l'apprennent ça sur le tas, parce que ils n'ont pas eu tellement l'occasion avant la Révolution de l'expérimenter, mais ils apprennent aussi à écrire, ils sont tous capables de rédiger des brochures, des articles de journaux, des libelles, donc ils ont un certain niveau d'éducation, un niveau certain même, et pour certains une relative aisance, c'est-à-dire c'est pas le sous-prolétariat des villes, on reparlera peut-être après de est-ce qu'il y avait un prolétariat et qui en faisait partie. Varlet, il a un peu de bien,
c'est pas la noblesse non plus, hein. Faut bien rappeler aux auditeurs qu'il y a la bourgeoisie, mais il y a les nobles qui sont
absolument une autre catégorie. On est dans une situation, ça il faut peut-être rappeler, parce qu'effectivement, je sais pas, il y a peut-être des jeunes auditeurs, on est dans une société qui se divise en ordres, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a la noblesse, le clergé, qui n'est pas sans lien parce que le haut clergé est recruté dans la noblesse, et le tiers-état. Dans le tiers-état, on met tout ce qui ne fait partie d'aucun des deux ordres précédents. Donc il peut y avoir des riches marchands, et puis il y a les paysans aussi. Voilà. Donc voilà, c'est une catégorie très très vaste et très diverse.
D'accord. Ben on va faire une petite pause musicale avec d'ailleurs une musique qui s'appelle La Valse des Enragés.
C'est comme un retour en arrière, une histoire qui se répète 100 fois avant que tu t'en imprègnes. Peine à croire que l'enfant que t'as vu naître puisse grandir, des mères se mêlent d'une arrogance incontrôlée. Je veux dire sans insolence, isolé comme je l'étais, dur de faire l'ignorant. Exprès, je m'aligne dans le rang de ceux qui concourent l'indifférence. Chiffré de nos jours en franc, une défense, l'offensive, l'esquive est peine perdue, obstiné comme je le suis. Et loin d'avoir perdu la raison, j'ai pris une trajectoire bien définie, un exutoire pour les uns. J'en tiens compte, bien sûr, sereinement cher la ceinture. Si tout va bien, meurs avec mon teint bronzé, sortirai de tes songes. Rongé par l'adversité, si tu savais à quel point ça me démange, exciter ma qualité. De savoir qu'il y en a qui vont payer. Ce qui les dérange, c'est de nous sentir arriver. Les couettes sont tech, arrive, la rage grimpe, active. Je crois que ça grince, prends la balle au bon. Remue ce couteau dans la plaie, faut qu'ils aient peur de l'intention. Sinon,
on en revient toujours au même. Je parle sans blesser ceux que j'aime et les autres, rien à foutre. Je dis bien, je parle, c'est finalement pour que les imposteurs se sentent visés. Tous ces enculés que je considère de l'autre côté de la barrière. Si je prends des textes au noir et qui me correspondent, sans aucune touche d'espoir, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? On est en 2000, mon frère, si ça peut servir de repère. Les mots comme des armes, tombés sous le charme d'un air saturé d'écreur que les exclus du partage baratinent par cœur. J'ai de quoi avoir la rage derrière, ces quelques paroles crues, indisciplinées et vulgaires. Voilà le fruit de ton intégration en cours, tellement pourri par le temps, pour que les pierres contagieuses des murs des bâtiments façonnent un esprit de vandale, conditionnent cette colère que la France digère mal, qui hérite des tâches ingrates quand les élus de ma ville méritent. Des patates, je mine ce genre d'écueil sur les musiques douces. Des gueules ma dépression et puis les emmerdent tous. Simplement, le feu purificateur viendra. C'est ce que la rumeur veut et espère qu'elle aura.
On prend les mêmes et on recommence.
Selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent.
Et si on dansait, et si on valsait sur ton arrogance.
On prend les mêmes thèmes, faute force.
On prend les mêmes et on recommence.
Selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent.
Et si on dansait, et si on valsait sur ton arrogance.
On reprend les mêmes thèmes, t'offense.
Tenu à l'écart, écrit clair à l'écran. Encore dans les enclaves, en esclave du front. Je suis l'exclu qui s'exclame, exprime son drame. Son vécu victime avec le vacarme au fond et la déprime en prime. Seuls mes frères comprennent la tragédie de la trajectoire d'une tête à la traîne. Je recherche la victoire et un trône. Du transcène pour mes neurones quand je zone. Et des balles pour la violence que je prône. Car j'ai des plaies qui impriment par cœur. Les corps du vaincu et l'air des cœurs du vainqueur. Les brimades, les brigades et les bribes de brigands qui se prennent pour des caïdes ou des truands. brillant, hors concours, comme la plupart de mes frères dans les remparts. La rancœur est mon recours, j'ai des tares et des torts, j'en ai des tonnes et des tonnes, et c'est mon folklore d'exclus que j'entame et chantonne.
Je sais, on se fait à peu près à tout, hein, en raisonnant bien l'essentiel, on détient au moins toi, crevé de boue. Le cap c'est que je m'égare pas, quand tes potes avec tout le monde, tes potes avec personne, crois pas, tant qu'ils joueront avec nos vies, pire qu'ils se méfient de mon sourire et de mes voeux pour leurs années à venir. La rage dans l'art, la rage à contenir, les banlieusards en marge, avec un savoir à détruire. Et s'ils rapalient les cerveaux, j'ai préféré prévenir, fêter aucune putain de victoire trop tôt, et faire mon taf bien comme il faut, pour que tu ne puisses jamais parler de zik dans ma gueule, Charlot. Toi penser tout seul, toi donner tout ce qu'on veut, les impatients craquent, tandis que les novices débarquent, la valse des enragés joue, que Vinicale
craque. On prend les mêmes et on recommence,
selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, Offensive Sonore, l'émission donc du vendredi soir, avec Claude Guillon ce soir, qui a écrit « Notre patience est à bout », 1792-1793, les écrits des enragés, aux éditions IMHO. Donc, on va avancer un petit peu dans le livre. On a commencé par la présentation des enragés, et puis aussi du contexte, hein, révolutionnaire. Un petit aussi, histoire de remettre chacun les deux pieds dans la Révolution française. Donc maintenant, on y est. Mais justement, votre ouvrage, c'est un ouvrage historique, mais qui, à chaque fois, introduit des notions qui peuvent être aussi actuelles. Il y a, comme je disais, la question de la démocratie directe, la question de la pauvreté et de la vie chère, et la question des luttes des femmes. Et donc, quand vous abordez le chapitre démocratie directe et mandat impératif, vous avez souhaité lier ça à une question d'actualité.
Oui, parce que je suis tombé sur Internet sur des traces de débats pendant le mouvement, un des mouvements étudiants de ces dernières années. C'était en 2007 contre, je crois que c'était contre la loi Pécresse, où des militants étudiants de différentes tendances discutaient de la manière de mener des assemblées générales et traitaient justement du mandat impératif, à la fois dans son principe, qui avait l'air d'être assez favorablement envisagé, mais étudiant de manière très très précise et très concrète les conséquences que ça pouvait avoir, y compris de manière paradoxale, en disant bah oui, mais quelquefois le mandat, alors rappelons, le mandat impératif, ça veut dire on délègue quelqu'un avec un mandat précis, c'est-à-dire on l'envoie pour défendre telle position et il n'est pas représentant d'un groupe ou d'une assemblée et il pourrait dire tout ce qu'il veut suivant son humeur du moment ou les circonstances. Il est envoyé pour porter un message précis, on va dire. Et certains militants disaient, donc militants actuels, disaient, ah bah oui, mais par exemple, le mandat impératif, ça peut aussi être utilisé par les organisations, parce qu'ils se débrouillent pour que ça bloque les débats et qu'on puisse pas parler d'autre chose que de ce qui a été précisément prévu dans l'ordre du jour. Donc voilà, on voit que c'est des questions extrêmement complexes à pratiquer, hein. C'est pas seulement sur le papier, c'est quand on est dans l'exercice d'une démocratie collective, ce sont des questions difficiles et qui se posent encore aujourd'hui dans des termes très voisins finalement de ceux dont on trouve la trace dans les documents d'époque révolutionnaire.
Oui. Alors ce qu'il faut bien voir pour revenir à la Révolution française, c'est qu'ils emploient le terme précis de mandat impératif.
Oui, bien sûr,
déjà,
absolument. Oui, ça, c'est le terme est là, l'idée est là. Et ce qui m'a intéressé, c'est que en retravaillant pour ce livre, qui était une commande, je dois dire, il faut toujours signaler quand les éditeurs font bien leur travail. Et là, il y a un directeur de collection, c'est vrai, qui s'appelle Armand Faraci, qui pour les éditions IMHO souhaitait un bouquin sur la Révolution française, mais qui renvoie toujours à aujourd'hui. Hein, ça faisait partie de la commande. Les correspondances entre l'époque révolutionnaire et l'époque actuelle. Et donc concernant ça, j'ai oublié
le mandat impératif, sur l'utilisation du terme déjà.
Oui. Alors, avant d'être théorisé, ou plutôt repris, par des enragés, notamment par l'un d'entre eux que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Jean-François Varlet, ce qui est très intéressant de voir, c'est que tout ce thème, le mandat impératif en tant que tel, et l'expression y est, et puis tout ce thème de la démocratie directe, pour le coup, la démocratie, le terme démocratie directe n'y est pas, mais mandat impératif est d'époque. Tout ça apparaît, non pas chez des théoriciens, c'est un peu chez Rousseau, hein. Rousseau dit le peuple ne peut pas se représenter, bon. Mais enfin sinon, à part chez Rousseau, des théoriciens politiques qui parlent de ça, on n'en connaît pas. Par contre, dans le processus révolutionnaire lui-même, et notamment à Paris, c'est quelque chose qui se construit. Parce que y a des gens qui ont été élus par les districts. Paris, c'est une division administrative, hein, les districts, qui vont devenir ensuite des sections. On n'entend plus souvent parler des sections, parce que c'est un petit peu plus tard, mais au début, en 89, c'est des districts. Dès 89, donc, l'été et l'automne 89, donc très tôt, cette fois, dans la Révolution, alors qu'il n'est pas du tout encore question de République, hein, je le rappelle, que le roi est toujours là, qu'on est dans une espèce de régime hybride de monarchie avec une assemblée. Bon, la question de la démocratie directe se pose parce que les districts ont donc élu des représentants pour administrer les affaires courantes de la ville de Paris et élaborer un plan municipal pour l'avenir. Et ces élus, il y a un processus là de petite bureaucratisation presque immédiate, eh ben ils se considèrent comme dépositaires du pouvoir souverain du peuple, hein. On pourra peut-être préciser ça. Ils sont élus par des représentants qui sont des citoyens actifs, donc qui sont nécessairement des hommes âgés de plus de 25 ans, qui ne sont pas domestiques et qui peuvent payer une contribution, hein, qui est égale à 3 jours de travail. Ça dépend, c'est fixé par les municipalités suivant les endroits. Donc, c'est déjà une vision du peuple qui est un petit peu étroite, elle est genrée et classiste, en somme. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas du tout que ces délégués, la commune, c'est comme ça que ça s'appelle, se considèrent comme dépositaires de la souveraineté populaire. Et là, les districts disaient même pas du tout. En tout cas, certains districts, et notamment le district des Cordeliers, disent « Ah non, 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 c'est pas du tout comme ça que nous on voit les choses. On vous a délégué pour faire un travail. Vous n'êtes pas nos représentants. Donc on a parfaitement le droit de vous rappeler si on n'est pas content de ce que vous dites. Et on instaure comme principe celui du mandat impératif, c'est-à-dire que on rappelle, mettons, Dupont, et Durand qu'on va envoyer à la place de Dupont, on lui fait prêter un serment comme quoi il y va avec mandat impératif, c'est-à-dire pour défendre tel point de vue qui est celui du district et pas tel autre, et il peut pas outrepasser son mandat. La commune répond en disant « Mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Il va de soi que maintenant, voilà, on constitue un pouvoir institué. On a été, ils disent pas ça comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, on a été démocratiquement désigné. Donc, on incarne la souveraineté. Et vous, vous êtes en train de... » Et là, apparaît un mot, c'est pas démocratie directe, le mot qui est péjoratif à l'époque, on dit « Vous êtes en train de... » d'instituer une démocratie pure. Sous-entendu, ça n'existe pas. Et les districts disent « mais si, si ». C'est-à-dire, en gros, l'équivalent des arrondissements de l'époque disent « oui, si, si, absolument, c'est ça qu'on veut ». Un mandat impératif, alors ils disent pas « on veut la démocratie pure », ils disent « il n'y a aucune raison de reculer dans la souveraineté populaire, attendu qu'on vient de l'acquérir, et assez chèrement, et de l'instituer, il n'est pas question maintenant de reculer et de dire « on s'arrête là, on a déjà été trop loin ». C'est intéressant parce que ça vient aussi bien de districts qui sont considérés comme bourgeois C'est-à-dire que c'est pas tant une opposition de classe là entre sans culotte et bourgeois, c'est à l'intérieur même de la bourgeoisie révolutionnaire des gens qui disent il y a là une logique de la souveraineté populaire qui conduit à la démocratie directe. Et on essaye de s'y tenir. Avec des, ils remportent des succès. Finalement, ça sera balayé avec le reste, hein. Mmh. Mais ils obtiennent.
Mais c'est quoi ce qui est intéressant justement de quoi ce que montre votre ouvrage, c'est que c'est un débat qui existe. On a l'impression que quoi, quelqu'un par exemple qui a participé au mouvement du CPE peut avoir l'impression que c'est un débat d'actualité. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, c'est un débat qui a pas toujours existé, mais qui existait déjà il y a plus de 200 ans.
Qui a plus de 200 ans.
Et donc moi, je propose même de lire un extrait parce que je trouve que alors après il y a des expressions et des fois quelques termes d'époque, mais si on enlève ça on montre déjà les problématiques hein, qu'on peut voir dans les assemblées générales étudiantes ou même d'autres de salariés. Mandataires du peuple, vos prédécesseurs lorsqu'ils furent nommés eurent comme vous notre confiance. Ils en abusèrent, ils prouvèrent que pour avoir plus de talent, il n'en avait pas moins de cœur pétri de mille faiblesses. Vos concitoyens sont depuis devenus inquiets, ombrageux, méfiants, toutes les fois qu'ils confient à leurs mandataires le soin de discuter leurs intérêts. C'est quoi, on remet quelques termes et une des formulations actuelles.
Et... Oui, absolument. Et puis, il faut bien se rappeler, garder présent à l'esprit, qu'on est dans la fondation de la société bourgeoise dans laquelle on est encore aujourd'hui, même si elle a connu toutes sortes de difficultés, hein, puisqu'ensuite il y aura la Restauration, l'Empire, machin, on est passé par tous les stades, le retour à la monarchie, empereur, etc. Mais puis de nouveau retour à la République, mais là les bases du système dans le de politique, y compris dans les mentalités dans lesquelles on est aujourd'hui, il s'élabore là. Et il s'élabore de manière extrêmement conflictuelle à un niveau d'élaboration théorique que je trouve absolument remarquable.
Et précis, oui, parce que là, le texte, l'extrait, c'est un extrait de Varlet, et donc c'est vraiment détaillé. C'est des présentations de comment ça pourrait fonctionner.
Et ce qui est frappant, c'est que c'est même avant la conceptualisation de Varlet, si tu veux, qui donne une pour lui, si tu veux, la démocratie directe et fait partie d'un programme radical de révolution. Alors que quand il s'agit des districts en 1789, c'est pas des gens qui ont la perspective d'aller. D'abord, on est qu'en 89. D'aller plus loin que la Révolution, d'aller même jusqu'à la République. Encore une fois, personne n'en parle à ce moment-là. Ils sont simplement dans une logique de la souveraineté populaire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils résistent au principe de la délégation de pouvoir. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ça se fait avec des gens dont on a les noms parce que les documents sont signés. Voilà, c'est des pièces officielles de produites par les districts, mais qui sont pas nécessairement des gens qui ont laissé leur nom comme extrémistes ou tu vois comme révolutionnaires particulièrement radicaux.
Oui, c'est vraiment l'utopie concrète là.
Ça, voilà, ils prennent au mot et au sérieux ce qui est en train de se passer. Ils ont bien raison. D'ailleurs, voilà, on institue la souveraineté populaire, d'abord dans un premier temps parallèlement et un peu contradictoirement avec celle de la monarchie qui demeure, puis ensuite carrément contre la monarchie jusqu'à l'exécution, jugement et exécution de Louis XVI. Mais dit voilà, la logique des choses, c'est que nous conservions le pouvoir au moins de contrôle sur nos délégués, et ce pouvoir que nous venons d'acquérir par la révolution, par par l'émeute, par la révolte du tiers état à l'intérieur des états généraux, il n'est pas question qu'on la laisse filer entre les mains de gens, même si ces gens viennent de chez nous, même si on les a désignés dans un premier temps.
Alors Claude Guillon, je vous propose d'avancer un petit peu dans l'ouvrage. Là, c'était vraiment sur le mandat impératif, donc, et on va écouter un extrait sonore pour introduire notre deuxième partie, on va dire, ce qui est autour de la pauvreté, de la vie chère et des subsistances.
Bon, alors on observe effectivement une flambée des émeutes de la faim dans les villes des pays pauvres en Afrique. On en a vu récemment au Caire, on en avait vu au Cameroun, on en a vu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à Haïti, dans beaucoup de pays. Alors la cause, c'est la flambée des prix mondiaux. Le prix du blé, le prix du riz ont plus que doublé. Pour trois principaux facteurs. D'abord parce que il y a la flambée des prix du pétrole et de l'énergie qui rétroagit directement sur la production agricole et sur la filière agroalimentaire, notamment le fret, etc. Il y a également le fait qu'il y a eu un changement de la demande, c'est-à-dire que l'on a actuellement de plus en plus de demandes de produits d'élevage de la part des pays émergents, et donc on a des effets de raréfaction de l'offre. Et puis il faut savoir que les produits financiers, les produits alimentaires sont devenus de fait des produits financiers, c'est-à-dire qu'il y a également des spéculations de la part des fonds de pension qui se repositionnent sur des valeurs refuges, ce qui entraîne évidemment une flambée des prix. Alors comme les pays pauvres n'ont plus les instruments de régulation, les subventions alimentaires, les prix garantis, pour des catégories dont à 1 dollar par jour, donc 80% des dépenses se font en biens alimentaires, il est évident que la répercussion de la hausse des prix, c'est la pauvreté, un repas par jour, avec évidemment les émeutes de la faim qu'on observe.
Alors, Claude Guillon, dans notre patience est tabou, vous introduisez la partie sur la vie chère en faisant le lien avec les émeutes de la faim qui étaient en plus criantes à l'orée de la crise quand vous avez écrit l'ouvrage. Mais donc on a eu avec cette intervention de Philippe Huon, qui est un économiste, un regard sur les émeutes de la faim d'il y a trois ans. Peut-être que vous pouvez nous faire un point justement pour continuer ces parallèles sur la situation en 1789 aussi, sur parce que c'est des années, on dit que c'est des années de mauvaise récolte.
Tout à fait, ça fait partie, c'est un petit peu scolaire, ça fait partie de...
Excusez-moi.
Non, mais c'est moi qui m'excusais en disant ça, surtout que en ayant dit plus haut que je n'étais pas prof, c'est la rubrique cause et origine de la Révolution française. La France est une grande nation européenne à l'époque, un grand pays agricole, hein, donc il y a essentiellement des terres cultivables. L'année 1788 a connu une très mauvaise récolte. Et on rappelle qu'on prend comme point de repère plus ou moins même si c'est un petit peu rapide le 14 juillet, en juillet on a une idée des récoltes de l'année 89 et elles s'annoncent médiocres. Alors ça va être difficile de faire le raccord entre ce qu'il y a dans les greniers qui date de la récolte de 88 et ce qu'on suppose qu'on va pouvoir récolter en 89. Et l'année 89, outre la révolution, et c'est bien lié, a une caractéristique, c'est que le prix du pain est le plus élevé qu'on connaît depuis le début du siècle. Donc bien entendu, ça touche les populations laborieuses des villes en priorité, parce qu'à la campagne on s'arrange toujours un petit peu mieux, on le sait, toujours en période de crise, en période de guerre. Et ça va alimenter aussi des révoltes paysannes qui sont pas tellement des émeutes de la faim que des émeutes contre l'impôt, puisque quand les récoltes sont plus faibles, alors qu'il y a des impôts qui se payent sur la récolte directement, qui se paye sur le champ, ce qui est probablement la source de l'expression, faire quelque chose sur le champ, c'est que là on paye la récolte, c'est un pourcentage de la récolte. Plus la récolte est petite, le pourcentage
le reste même.
Et oui, voilà. Donc il est de plus en plus insupportable. Donc là on a un élément très important qui va rester fondamental pendant tout le cours de la Révolution. Les sans-culottes réclament du pain, qui est la source d'alimentation principale, hein. Mais les grains, c'est important aussi parce que ça sert à nourrir les chevaux, qui sont le moyen de transport à l'époque, hein. Il faut toujours se rappeler un petit peu les choses. Et donc, la réclamation du pain, ça va être un leitmotiv pendant toute la Révolution. Après l'adoption d'une constitution un petit peu plus radicale que la première en 93, le slogan des foulées meutières, c'est du pain et la constitution de 93, c'est-à-dire du pain et des garanties démocratiques, on pourrait dire, pour traduire un petit peu ça.
Mais du coup, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des propositions. Moi, ça m'avait fait penser aussi aux gens qui se battent alors pour un commerce équitable ou une équité dans le commerce, ou quand on parle de prix juste ou des choses comme ça. Mais là, il y a des revendications qui sont claires de prix fixés, parce que c'est ça en fait. Ils se battent. Il y en a à côté les mauvaises récoltes, mais ils se battent pour des prix qui varient pas, qui n'augmentent pas trop.
Les mauvaises récoltes créent quasi mécaniquement l'accaparement, c'est-à-dire les gens qui gardent les stocks. Et qui permet d'alimenter, si j'ose dire, la spéculation. Donc, une des cibles des révolutionnaires et singulièrement de la sans-culotterie et donc des enragés, ce sont les accapareurs, ce qu'on appelle à l'époque les monopoleurs, oui. Les agioteurs sur le plan économique, c'est juste ceux qui spéculent sur l'argent. Mais surtout, bien sûr, les accapareurs, c'est ceux qui gardent les grains ou qui gardent le pain, qui gardent des denrées alimentaires ou des denrées de première nécessité, c'est-à-dire considérés comme tels, le sucre et le savon. Donc, la bourgeoisie, la tendance dominante de la bourgeoisie, elle est libérale. Elle souhaite un libéralisme économique.
Oui, c'est ce que vous montrez, c'est qu'il y a déjà le débat en fait entre interventionnistes et libéraux.
Bien sûr. Alors que les enragés sont du côté de ceux qui réclament un interventionnisme très fort par la guillotine d'abord contre tout ce qui est considéré comme sensu du peuple. Hein, c'est des termes qu'on retrouve tout le temps dans la presse de l'époque, c'est-à-dire les affameurs. Et d'ailleurs, ils le sont réellement. Et puis alors des mesures un peu plus réglementaires sur le prix des denrées de première nécessité, la création de greniers d'abondance dans lesquels, c'est-à-dire en gros, il y a des propositions disant voilà, on constate le peuple ne peut pas se passer de farine et de pain pour se nourrir, donc il faut en gros saisir les récoltes et en faire un bien national, quoi, un bien commun. Hein. C'est une des atteintes au principe de la propriété privée qui vient dans la logique, c'est pas dans une logique d'un communisme idéologique, mais dans la logique de la nécessité qui existe de nourrir le peuple. Et puis à partir de la guerre qui est déclarée par la France en 1792, il faut nourrir les armées. Donc il faut aussi beaucoup de pain et l'acheminer sur place. Ça mène aussi à ce qu'on appelle à des mesures qui ne sont pas réglementaires, qui sont des mesures d'action directe, c'est-à-dire de taxation. C'est-à-dire qu'on arrête des convois, on pille des greniers, des entrepôts, ou bien on les pille simplement, ou le plus souvent d'ailleurs on impose un prix aux marchands, c'est-à-dire la foule dit ben voilà, le prix que tu fixes c'est tant, nous on dit tant moins X, et sinon on importe tout. Voilà, donc ça c'est une espèce de taxation populaire. Ensuite, la convention, sous la pression des enragés, prendra des mesures de ce qu'on appelle le maximum, c'est-à-dire en fixant un maximum pour un certain nombre de denrées, dont le blé. Mais elle fixe aussi un maximum pour les salaires par la même occasion. Ce ne sont pas exactement des mesures en faveur du prolétariat. C'est d'accord. Vraiment oui. Sous la pression de la population, parce qu'elle peut, en même temps, la bourgeoisie, même la bourgeoisie libérale, elle est prise dans une contradiction. Elle est obligée de s'appuyer un peu sur les, ou beaucoup, suivant ses tendances, sur les masses populaires, parce que il y a une guerre qui a été déclarée par elle-même, d'ailleurs. C'est les Girondins qui étaient pour la guerre, et donc la bourgeoisie républicaine libérale, on va dire, et il faut nourrir les soldats, et il y en a beaucoup parce qu'on a fait une levée en masse de 300 000 hommes.
Donc Claude Guillon, je propose qu'on s'arrête là parce que j'ai vraiment envie d'aborder, de prendre un peu de temps pour aborder la dernière partie de l'ouvrage qui est sur le féminisme, hein, qui s'intitule Sans être féministe. Et donc pour introduire cette partie-là, je propose qu'on écoute un extrait sonore d'un DVD autour du collectif contre le publisexisme.
Faut se prendre par l'arrière, allez.
Ces publicités qui montrent les femmes comme des objets qu'on peut s'approprier à tout bout de champ, comme on le désire, ça renforce évidemment le phénomène des viols. Et il faut rappeler quand même qu'il y a 40 000 viols déclarés en France chaque année.
48 000 viols déclarés en France chaque année.
Chaque année, tous les quarts d'heure, je crois. On ne peut pas ne pas mettre en parallèle, effectivement, cette réalité vécue par des milliers de femmes et une affiche pseudo-anodine dans le métro. Il y a des affiches qu'on peut vraiment interpréter comme des incitations au viol. Oui. C'est-à-dire, les femmes sont tellement désirables... qu'on leur saute dessus. C'est en tout cas cette réaction primaire, instinctive, est légitimée dans pas mal de publicités.
Et donc il y a ce fameux chiffre de 48 000 viols par an qui est terrifiant. 2 millions d'hommes qui battent leurs femmes ou leurs compagnes chaque année.
400 femmes tuées.
Tuées. Et donc
chaque année par leurs compagnons.
En effet. Donc ce qui fait que sans rentrer dans l'amalgame qui serait sans doute excessif de dire c'est à cause de la publicité, on ne peut pas en tout cas nier que la publicité participe de cette banalisation de la violence et qu'elle la rend non seulement pas possible, mais qu'elle fait vraiment partie de cette pérennisation des phénomènes violents aujourd'hui des hommes sur les femmes.
Aujourd'hui, on va faire une petite manifestation pour essayer d'en finir avec la fête des mères. Et donc, il s'agit de faire une petite scène théâtrale, c'est une manif festive, donc avec une petite pièce théâtrale, et une petite manif à l'américaine avec des hommes travestis, avec des jolies robes, qui vont manifester avec des jolies pancartes, en espérant que les gens viendront vers nous, qu'on pourra leur expliquer notre démarche et décider de notre acte.
Femme en niche, femme à biche, on en a plein les miches.
vous êtes toujours sur Radio Libertaire, Offensive Sonore. C'est un extrait d'un DVD qui s'appelle Collectif contre le publisexisme, un an de lutte, qui est d'ailleurs, je pense, disponible en s'adressant au Collectif contre le publisexisme. Si vous n'avez pas les coordonnées, on vous invite à joindre Offensive. Donc, là, je rebondis un peu sur ce qu'on entendait, parce qu'on parle des tâches ménagères. Moi, j'ai été surpris, par exemple, des textes qui déjà font la distinction des hommes qui sont dans la sphère publique, des femmes qui sont dans la sphère privée. Moi, j'avais l'impression que c'était des analyses récentes, un petit peu de sociologues, d'universitaires actuels. Et en fait, déjà, il y a une clarté de la vision des rôles genrés qui est assez frappante.
C'est vrai dans certains textes. Alors j'ai intitulé cette partie du livre sans être féministe parce que c'est une formule qui me semble on entend beaucoup de nos jours là, aujourd'hui. Quand certaines femmes qui ne veulent pas passer pour extrémistes ou féministes, je ne sais pas quelle image elles ont du féminisme, sans doute un peu déformée. Quand elles veulent critiquer un aspect de la domination masculine, elles commencent comme ça. Sans être féministe, il faut dire que telle chose n'est pas facile à supporter. Voilà. Alors, ça colle très bien aux enragés de l'époque, parce que on peut pas dire qu'elles sont féministes, puisque le mot n'existe pas, le concept n'a pas été formé. Mais elles se battent pour obtenir des droits et pour faire reconnaître leur rôle dans le processus révolutionnaire et dans la nouvelle société qui est en train de se construire. Ça ne va pas sans contradiction, sans difficulté, ça n'en parlons même pas, mais aussi sans contradiction et sans difficulté théorique. Non seulement elle rencontre une très forte opposition de la part des militants, et pas seulement des députés, hein, ça peut Pauline Léon, dont je parlais tout à l'heure, explique qu'à la veille, un jour, lors d'une de ce qu'on appelle des journées révolutionnaires, c'est-à-dire des journées d'émeute, auxquelles les femmes ont participé. Elles ont participé à toutes les journées insurrectionnelles et elles y ont souvent participé armées. Et elle explique que lors d'une de ces journées, elle est avec une pique, qui est l'arme du sans-culotte de l'époque, c'est-à-dire un instrument plus ou moins bricolé, hein, avec une partie métallique sur un manche ou sur... Bon, il y a divers modèles. Là, c'est l'ingéniosité populaire qui supplée au manque d'armes plus sophistiquées. Et donc, elle est armée, elle a une pique, et elle se la fait piquer, si j'ose dire, par... disons que les sans-culottes mâles qui l'entourent font pression sur elle pour qu'elle remette son arme. Et on sent bien toute la vexation. Elle dit je ne l'ai pas fait sans recommander à celui à qui je la donnais de s'en bien servir. On sent qu'elle a été horriblement humiliée de ça. En même temps, on a, par les archives de police, des traces, des attestations d'une foule d'incidents violents auxquelles des femmes participent de manière active, c'est-à-dire en tant qu'acteurs positifs, c'est-à-dire que en tant qu'acteurs entre guillemets agressifs. Elles ne sont pas toujours victimes. Mmh. Elles se promènent armées de couteaux. Elles n'hésitent pas à agresser des hommes plus nombreux et mieux armés qu'elles, et surtout entre guillemets plus légitimes, au moins dans le contexte de l'époque. Donc les militantes de la sans-culotterie et singulièrement les militantes enragées payent de leur personne, vraiment.
Mais justement là, dans les textes que vous mettez, alors on est frappé, alors peut-être justement parce que victime d'une vision peut-être sexiste, on est frappé, c'est souvent elle réclame le port d'armes, enfin, une fois la révolution passée, aux assemblées générales.
Tout à fait.
Elle réclame le port d'armes, le fait de pouvoir s'exercer, de s'entraîner.
C'est l'objet d'une pétition qui a été rédigée par Pauline Léon, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, et qui la présente à l'Assemblée en début mars 1792. où elle demande effectivement le droit de pouvoir s'armer et de pouvoir s'exercer à l'armement. Alors, au maniement des armes. Après, elles le font d'une manière qui est un petit peu contradictoire parce que elles sont dans une position extrêmement difficile. Et il faut dire aussi que le thème de l'armement, qui est fondamental, en gros, ce qu'elles viennent dire, c'est pas exactement présenté comme ça, mais ce qu'elles viennent dire, c'est de toute façon, on s'est battu, nous, femmes révolutionnaires, on s'est battu dans les journées insurrectionnelles, les armes à la main, et donc, maintenant, il faut que ça soit institutionnalisé et reconnu. Donc, c'est pas juste comme ça, quand la révolution a besoin d'une émeute pour se soutenir, et ensuite, on nous dit de rentrer à la maison, ben non, institutionnalisation, ça, j'y arriverai pas, et elles y sont pas arrivées non plus.
Oui, il y a des réactions...
Les réactions sont extrêmement virulentes, extrêmement humiliantes, extrêmement moqueuses.
Moqueuses, oui, un peu comme on a pu voir.
Un sexisme absolument caricatural. Mais
rien n'a changé encore une fois.
Mais là, vraiment, exprimé dans un beau langage, parce que c'est quand même le langage du XVIIIe siècle. Et puis alors, quand elles vont devant les députés, ce sont des gens, c'est des bourgeois, c'est des avocats, c'est des gens qui ont un peu plus d'instruction qu'elle, tu vois, donc qui maîtrisent un petit peu plus le langage, puis qui se sentent, ne serait-ce que par leur statut d'homme, tout à fait au-dessus de ces femmes. Alors qu'on accueille quand même dans un premier temps avec bienveillance, avec paternalisme, avec des sous-entendus plus ou moins érotiques et égrillards. Il faut dire que la pique, c'est aussi dans la littérature érotique et depuis bien longtemps, bien avant le XVIIIe siècle, mais notamment au XVIIIe siècle, chez Sade, c'est une désignation argotique du sexe masculin. Or, les députés sont des gens cultivés, qui ont suffisamment d'argent pour acheter des livres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à l'époque. Certains d'entre eux en écrivent de la littérature érotique. Donc, ils sont parfaitement, ça résonne certainement dans leur tête de voir ces femmes qui viennent réclamer de pouvoir manier la pique. Ça les fait rire, mais en même temps, ils le prennent comme une agression à leur prérogative de genre.
Alors, est-ce que ces femmes, elles commencent déjà à s'organiser en groupe de femmes, en groupe non mixte, comme on dirait aujourd'hui?
Alors, il y a ça. Il y a d'abord la pétition que je signalais qui réclame l'armement, et puis probablement à la suite de difficultés à fréquenter certaines sociétés populaires. Elles sont pas admises partout, les femmes. Elles sont admises dans certains clubs, dans certaines sociétés populaires. Mais probablement, comme elles sont justement parce qu'elles sont pas admises partout, les endroits où elles sont admises, il en vient beaucoup, puisqu'elles viennent là où elles peuvent venir. Et alors, par exemple, la société, une société populaire qui est la société patriotique de la section du Luxembourg, à laquelle participe Pauline Léon, va restreindre l'accès des femmes en disant il peut pas y en avoir plus, je crois, d'un cinquième, et en restreignant aussi, en instituant des conditions d'âge. Donc, arrive, peut-être à cause de cet élément-là, peut-être d'une autre manière, là on manque un peu de documents, l'idée effectivement d'un groupe non mixte, c'est-à-dire d'une société de femmes, et c'est la création en 93 de la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires. Alors, qui est presque immédiatement un peu en retrait, par exemple sur le thème de l'armement, sur ce qu'on vient de dire, sur ce qui s'est passé un an plus tôt. Au point de vue numérique aussi, la pétition qui réclame l'armement, rédigée par Pauline Léon, elle recueille à peu près 300 signatures. Les républicaines révolutionnaires, elles seront à peu près 200. Donc il y a déjà une déperdition, alors que
ce
là...
Ce n'est pas que des enragés, ça regroupe...
Non, c'est... on va dire, c'est les femmes révolutionnaires qui souhaitent venir dans une société de femmes. Mais donc il y a une tendance enragée qui est représentée par Pauline Léon et Claire Lacombe, et puis il y a une tendance qu'on peut dire jacobine, c'est-à-dire plus proche de la société jacobin, plus proche des robespierristes, plus proche des hommes d'État aussi, d'une certaine façon plus modérée.
Et Olympe de Gouges, par exemple, qu'on connaît.
Alors non, elle n'en fait pas partie.
Elle fait pas.
Voilà. le paradoxe dans la Révolution française, c'est que il y a des les deux figures plus clairement féministes qu'on connaît, c'est Héroïne de Méricourt et Olympe de Gouges, et elles ne sont pas immergées dans le mouvement populaire. Elles participent pas de la même comme une Pauline Léon qui est marchande de chocolat ou une Claire Lacombe qui est actrice. Elles participent pas à l'extrême gauche de la sans-culotterie ou Société populaire. Elles ont un parcours d'opposition peut-être plus franchement féministe à notre regard moderne, mais un parcours politique beaucoup plus confus, beaucoup plus sinueux. D'accord. Ce qui fait qu'elles sont paradoxalement marginalisées aussi plus vite et d'une certaine façon en tant que féministes, alors que les républicaines révolutionnaires jouent un rôle dans la révolution, et avant de devenir gênantes pour le pouvoir et qu'on ferme le club et qu'on interdise d'ailleurs tous les clubs de femmes, comme ça c'est plus simple, elles ont une certaine légitimité. Hein.
Et sinon, Claude Guillon, là, vous abordez aussi dans votre ouvrage, Notre patience est tabou, la question du vote. Vous avez tout à l'heure rappelé que le vote était limité.
Oui, dans un premier temps, en tout cas, aux citoyens actifs et à des hommes.
Surtout. Et à des hommes. Est-ce que justement, c'est ma question. Est-ce que ça fait l'objet d'une revendication de la part des femmes?
Ça fait l'objet de revendications de la part de très peu de femmes. On connaît quelques clubs de femmes en province. Par exemple, la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires dont je parlais n'a jamais réclamé le droit de vote. Certains historiens considèrent que c'est dans la logique de toute leur action. C'est pas totalement faux, sauf que si c'était si logique que ça, on peut supposer qu'elles l'auraient formulé. On peut penser aussi qu'elles ne l'ont pas formulé parce qu'elles pensent que c'est inconcevable à l'époque, et qu'elles partent en réalité de leur pratique. Elles réclament le droit à l'armement, pas de manière abstraite, comme j'ai dit, parce que déjà elles participent aux insurrections de manière armée. Il y a des sociétés populaires auxquelles elles participent aux débats, elles interviennent, y compris à la tribune de l'Assemblée, de la Convention. Elles demandent pas le droit de vote. Ça n'apparaît pas du tout dans leur revendication, non.
D'accord. On parle du droit de vote, vous êtes quand même sur Radio Libertaire, avec Claude Guillon, auteur de Notre patience est tabou, un ouvrage autour de la Révolution française, et on va faire une pause musicale.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine son Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu, je veux parler sans gêne. Coquin, filou, peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin, filou, peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu, et je couche sur la paille, nom de Dieu, et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse. Sans Dieu, nous crevons d'abstinence. Nom de Dieu, nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Ô vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse. Sans Dieu, se faire ploter les fesses. Nom de Dieu, se faire ploter les fesses. Quand il t'appelle le gueux, nom de Dieu, suce à leur équipage. Quand il t'appelle le gueux, nom de Dieu, suce à leur équipage. Un pied sur le moyeu, nom de Dieu, pour venger cet outrage. Sans Dieu, crache-leur au visage. Nom de Dieu, crache-leur au visage. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu. Fous les églises par terre, sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu. Patron, bourgeois et prêtre, sans Dieu, mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne.
Alors vous êtes toujours sur Offensive Sonore avec Claude Dumont et c'était le Père Duchesne interprété par l'inévitable Marc Augeret. Donc on ne pouvait pas ne pas vous mettre une musique, une chanson autour de la Révolution française ce soir. Pour conclure peut-être cette émission et qui arrive à sa fin, je me rends compte que on aurait pu faire une nuit autour de la Révolution française.
Il faudra faire ça.
Inarrêtable.
Une nuit autour de la. Ben c'est un monde.
Oui, c'est en plus, bro. Il y a une nécessité de rappeler aux auditeurs les dates et les enjeux de l'époque, justement sur les enjeux de l'époque. Dans l'introduction de votre livre, hein, pour boucler la boucle, vous montrez aussi les débats qui existent à l'intérieur de la Révolution entre ceux qui croient que la Révolution peut aller plus loin, vers plus d'utopie, vers du mandat impératif, vers des femmes qui s'impliquent, pour reprendre les thèmes développés dans l'émission et dans le livre « Notre patience est tabou », et d'autres qui disent « bon, bah la Révolution, c'est déjà énorme ce qu'on a gagné, oui. On s'arrête quoi ?» Ou je caricature un peu peut-être
Non, non, tout à fait. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé dans la fabrication de ce bouquin, c'était de traiter l'idée que... On entend dire aujourd'hui qu'on est sorti de l'ère des révolutions, que l'idée même de révolution sociale dans un pays comme la France aujourd'hui est complètement obsolète, hors d'actualité, sans parler du fait qu'elle est inconcevable, impraticable, etc. Mais on dit, bon d'accord, il y a eu un temps des révolutions, mais là, la révolution, en gros, la révolution est finie. Et on l'a dit au moment du bicentenaire, et un historien comme François Furet en faisait le titre d'un ces textes, on a dit la Révolution française, elle est finie, voilà. Et on dit aujourd'hui, au XXIe siècle, que cette prétention-là, qui est en fait une prétention de fin de l'histoire, on est arrivé au maximum possible des sociétés humaines, c'est-à-dire, en gros, c'est capitalisme plus démocratie parlementaire. Cette idée que l'histoire s'arrête et que la révolution est finie, elle n'est pas du tout nourrie de toute la sagesse anti-totalitaire, la chute du mur de Berlin, la fin du bloc de l'Est, etc. On la trouve déjà exprimée avant même l'instauration de la République. Pendant la Révolution française, les gens qui essayent de sauver l'idée d'une monarchie constitutionnelle disent « Voilà, la Révolution, elle est faite. De quoi est-ce que vous parlez, là ? C'est fini. Il faut s'arrêter là. »
Quoi, j'ai participé à coordonner le numéro d'offensive autour de mai 68. On a l'impression que le débat est très proche. Hein.
On retrouve ça tout le temps. Et ce que dit quelqu'un comme Barnave, qui défend la monarchie, qui espère pouvoir sauver la monarchie constitutionnelle, il dit mais regardez où est-ce qu'on en est arrivé là. Si on va un pas plus en avant, on va s'en prendre aux propriétés, mécaniquement. Peu importe les intentions des uns et des autres, mais on va remettre en cause la propriété, et ça c'est la fin du monde. Alors que là, on a procédé à une modernisation, certes un petit peu chaotique, certes un petit peu violente, mais il faut voilà, vous rentrez chez vous.
Mais justement, pour reprendre ce que vous disiez autour de François Furet, c'est aussi amusant que de voir des historiens universitaires. quoi, au moins qu'avance avec avec ces prétentions là se soit servi de la Révolution française, parce que vous affirmez comme engagé dans cette mouvance là
des
Kropotkin, des Daniel Guérin, et puis on s'aperçoit que d'autres qui vont essayer de se cacher derrière des cautions universitaires se sont servis de la Révolution française en fait pour nous démontrer des choses sur le présent.
C'est d'autant plus drôle concernant un certain nombre d'auteurs que ce sont quelquefois des gens qui ont un passé stalinien. Oui. avant de devenir de farouches partisans du libéralisme. Moi je pense que la Révolution française n'est pas fini au sens où on n'en a pas tiré tout le suc, si tu veux.
D'accord.
Elle n'a pas produit tous ses effets. D'abord, on ne sait pas tout. Il y a une grande activité de recherche éditoriale sur la Révolution. On est loin de tout savoir et de tout comprendre. Et je pense qu'on n'en a pas tiré toutes les leçons. Et que d'autre part, c'est ce que je dis dans le bouquin, un peu plus de 200 ans à l'échelle d'une vie humaine, ça paraît long. À l'échelle de la vie de notre espèce, c'est très court. Je rappelle que l'homme de Néandertal, qui a précédé notre stade de développement, a vécu, alors suivant les archéologues, les historiens, les chiffres sont un petit peu différents, ça va entre 180 000 ans et 300 000 ans. On voit qu'on c'est pas la même échelle. Hein.
D'accord.
200 ans, c'est très très court.
Le mot révolutionnarius a de l'avenir devant lui.
On peut considérer qu'on est dans une préhistoire de la recherche d'une démocratie directe, par exemple.
D'accord.
Donc, 200 ans, c'est très court, et donc les enragés sont des frères et des sœurs très très proches, je pense.
D'accord, bon, je vous remercie Claude Guillon d'être venu ce soir.
Mais c'est moi qui te remercie. Je signale aux auditrices, aux auditeurs que ça intéresse, que sur mon site internet, je donne pas l'adresse, on se trompe toujours en notant, n'importe quel moteur de recherche les mène directement dessus.
Oui, oui.
Il suffit de taper Claude Guillon.
Moi j'ai trouvé, j'ai fait des recherches,
voilà.
J'ai trouvé.
Je mets en ligne progressivement des documents d'époque révolutionnaire, des articles sur la Révolution, donc un ensemble documentaire pour les gens que ça intéresse, en plus des deux bouquins que j'ai publiés là-dessus.
D'accord. Bon, bah merci. Donc, l'ouvrage Notre patience est tabou, 1792-1793, Les écrits des enragés. Vous avez écrit d'autres ouvrages, on peut les trouver dans les bonnes librairies, je pense à Publico, je pense à Quilombo.
Un autre bouquin qui s'appelle Le Deux enragés de la Révolution,
oui.
Qui concerne Leclerc de Lyon et Pauline Léon, qui était publié, qui est toujours publié, à la digitale.
La digitale, et qui est toujours disponible, il date
toujours disponible,
17,
absolument.
Il date de 1700, non, de 1994.
Voilà.
Toujours
d'accord.
Disponible. Bon, bah merci, on va lancer une petite musique et repartir sur les annonces.
La Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, même tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultes danses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu Vichy et collaboration. Expert aux faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Se créer la censure crée un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi.
Donc c'était Rosset qui, pour ceux qui ont bien écouté les paroles, parle de son père dans la résistance. Et son père, donc c'est Adolfo Kaminski, il a publié un ouvrage, ou sa fille a publié un ouvrage autour de sa vie de résistant, de faussaire, de faiseur de faux papiers pendant la résistance. Et ensuite pendant la guerre d'Algérie, sur les luttes anticoloniales. Et donc il sera
mercredi soir, mercredi 24 février à la librairie Quilombo. Donc on vous invite à venir le voir, le rencontrer, discuter autour d'un itinéraire militant assez singulier, on peut dire quand même. Donc ça sera à 19h30, donc c'est 23 rue Voltaire dans le 11e arrondissement. Donc voilà pour les annonces sonores. Il y a aussi la revue Offensive qui est toujours disponible en kiosque, le numéro 24. Et il y a le 18 mars. Alors ça, on a un peu plus le temps. On est le 19 aujourd'hui, mais c'est faisons la publicité pour le collectif Livre de Papier qui se bat contre tout ce qui est numérisation, automatisation des bibliothèques, numérisation du monde en général, donc qui organise le 18 mars un repas de soutien à la rôtisserie 4 rue Saint-Marthe 75010 Paris. Et je laisse Cyril donc pour l'annonce autour des nanotechnologies.
Oui, alors voilà, j'espère qu'on m'entend bien. C'est donc, alors déjà, vous êtes au courant qu'il y a eu des débats publics organisés par un comité des débats publics, en fait, qui sert essentiellement de propagande, en fait, ou de tester l'acceptabilité, en fait, de tout ce qui est nanotechnologique, une nouvelle saloperie comme les OGM, comme le nucléaire avant. Donc c'est toujours les mêmes méthodes, organiser des faux débats publics. Donc il y avait toute une campagne, en fait, pour de boycott et d'essayer d'empêcher ces débats d'avoir lieu, sachant que les crédits et tout ça sont déjà débloqués depuis des années, enfin bon. Voilà pour la démocratie. Et donc, en fait, ça a plutôt bien marché, puisque tous les débats ont été soit perturbés ou soit annulés. Donc pour l'instant, le grand débat qui devait clôturer a été annulé. Donc ce qui a été proposé, puisque les faux débats n'ont pas lieu, organisons notre propre débat. Et donc ça aura lieu juste à côté d'ailleurs du débat qui est toujours annoncé comme annulé. On sait pas trop, c'est une stratégie un peu de l'usure qui se fait avec cette commission de débat. On sait pas trop ce qui va se passer exactement. Il y aura un débat donc le jour même, juste à côté, en fait, au CIP IDF qui est qui est 14 quai de Charente, dans le 19e métro Corentin Cariou, et donc ça sera à 20h, donc juste à côté. Donc si comme ça, on pourra peut-être amener des gens qui voulaient participer à ce débat public. Ensuite, il y a une action le mercredi 24 février qui est un rendez-vous d'action, en fait, à 10h place du Châtelet, et il y aura une assemblée générale, en fait, pour savoir sur les suites, en fait, du mouvement, qui aura aussi lieu au CIP-IDF et donc dans la suite de l'action à 20h, en fait, donc le même jour, le 24 février. Donc voilà pour les nanos.
Donc merci, vous étiez bien sur Radio Libertaire et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Merci à Cyril et à son assistant Guy à la technique. Merci à Claude Guillon, je rappelle l'ouvrage Notre patience est à bout, les écrits des enragés 1792-1793, et on se retrouve dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est la grenouille noire. Merci.